Vous écoutez France Culture.
Et à 6h35, comme chaque jour, l'essai du jour, la revue du jour, Jacques Munier, bonjour à vous.
Bonjour Marc.
Et l'essai du jour aujourd'hui, Myriam Congost, le vol et la morale, l'ordinaire d'un voleur, c'est publié chez Anacarsis.
Il s'agit d'une étonnante enquête au long cours, dans le sillage d'un mont-en-l'air, cambrioleur et voleur de voitures ou de motos. Le grand-père de l'auteur fut en son temps un voyou avant de se ranger opportunément des voitures après avoir failli tomber alors qu'il venait de faire dérailler un train de marchandises pour le dépouiller et que son complice avait été abattu par la police. Un grand-père qu'elle dit avoir adoré et dont les histoires lui ont apporté, dit-elle, tout un savoir sur la question. À l'insu et malgré l'opposition de sa famille à la transmission de cet héritage inavouable. D'où sans doute le choix de ce sujet et la volonté de ne pas enquêter auprès de voleurs en prison. Si l'on peut aisément supposer que dans ces conditions de liberté, l'enquête est d'autant plus révélatrice quant à la représentation que le voleur se fait de lui-même et de ses actes, elle est aussi beaucoup plus risquée à tous égards. Et même si Myriam Congost prend toutes sortes de précautions pour ne jamais pouvoir être mise en cause, on verra qu'elle s'est trouvée plus d'une fois dans des situations limites, comme lorsqu'elle accompagne Yushka dans un voyage au Cambodge afin de transformer de l'or de casse, c'est-à-dire des bijoux provenant de cambriolage. Mais surtout, le risque est d'ordre moral, car la relation ethnographique tourne souvent à l'apprentissage de la transgression, provoquant un trouble constant chez l'enquêteuse entre fascination et répulsion, un trouble qui est l'un des plus puissants moteurs de l'enquête. C'est d'ailleurs, comme l'indique le titre, ce rapport à la morale qui constitue son fil rouge. La morale ordinaire qui réprouve le vol et à laquelle le délinquant est aussi confronté, comme en témoignent ses silences et ses dénis, mais aussi celle qu'il s'est forgée dans les marges, ce qu'on appelle son code de l'honneur. Tenir sa langue et sa parole, c'est ainsi qu'on pourrait résumer cette injonction contradictoire qui, on le conçoit, ne facilite guère la tâche de l'enquêteur. Mais après avoir établi la confiance, Myriam Congost a noté pendant de longs mois comment son interlocuteur scandait ses propos par des silences qui lui permettaient de faire le tri entre ce qu'il pouvait dire ou pas. En particulier, le mot « voleur » n'est jamais prononcé, tout comme celui de Sorcellerie chez Jeanne Favret-Saada. C'est pourquoi les longues transcriptions d'une parole d'habitude vouée au silence ont autant d'intérêt et révèlent le jeu subtil, les voleurs sont très joueurs, nous dit l'auteur, le jeu subtil entre le désir de se raconter et l'extrême prudence de cette parole de l'ombre. Car le métier suppose de nombreuses et réelles compétences, forcément inavouables. Notre homme a une formation de serrurier, même si son parcours scolaire est improbable. Il est également mécanicien et n'a pas son pareil pour refrapper les véhicules volés, c'est-à-dire changer le numéro du moteur à l'aide d'une frappe, d'un coup sec, net, précis, pour former un nouveau chiffre dans le métal. Son travail, nous dit Myriam Congost, était quasiment celui d'un artiste, au geste presque féminin, qui tranchait avec l'ambiance poisseuse du délit et de la complicité qui régnait au sein de la petite équipe. Une autre compétence, et non des moindres, est celle qui consiste à effacer toute trace. Elle est le pendant pratique du silence. On imagine le soin scrupuleux mis en œuvre au cours du cambriolage, mais l'auteur n'était évidemment pas là pour en témoigner. Par contre, elle nous affranchit sur les contorsions savantes et complexes dans la gestion d'un compte bancaire lorsqu'il faut acheter, échanger ou vendre sans laisser de traces. Là, c'est le plus souvent l'or qui va jouer le rôle de l'outil d'épargne et le troc qui peut convertir la rapine en liquidité. Tous les détails à retrouver page 215. Mais s'il y a un art polytechnique de la cambriole, je signale au passage que Yushka ne s'est jamais fait prendre, il y a aussi une éthique du voleur. Je cite « L'honneur dans le milieu du vol est un vecteur de communication primordial. Savoir et faire savoir que l'on ne peut se faire voler soi-même sans perdre la face en est l'axiome principal. De même, on ne vole pas un voisin, a fortiori un ami et plus encore un collègue. L'auteur nous rapporte une histoire à la fois cocasse et dramatique avec des manouches venus tordre, c'est-à-dire récupérer violemment ce qu'ils avaient vendu la veille à un collègue de notre Yushka. Petrouchka, lequel se doit d'intervenir au fusil d'assaut, occasionnant une belle pagaille dans la voiture où se terrent les agresseurs, l'un passé sous les pédales en tentant de démarrer le véhicule, l'autre le nez dans le cendrier, le troisième embrassant la moquette sous le siège arrière. L'histoire du méchant qui tombe sur plus méchant que lui. Je cite Yushka, « Putain, j'ai du mal, mais tu sais comme je suis. Je lui ai rien cassé autour, même pas son portail. J'ai travaillé proprement. C'est ça qui fait plaisir. Voler bien propre, bien net, sans pagaille. Putain, je suis content de moi. » C'est la fierté du travail bien fait.
On dirait Mark Twain.
Dans cette industrie marginale et souterraine qui est l'autre axiome de la morale paradoxale du voleur, j'allais dire du bon voleur. Dans l'esprit de Yushka, le bien volé est mérité par le risque encouru de perdre la vie ou la liberté et par l'art d'échapper à la police. Alors on a envie de conclure avec Georges Brassens, les stances au cambrioleur qui avait eu le bon goût de choisir sa maison et n'avait pas cru descendre le privé de sa guitare. Monte en l'air mon ami, que mon bien te profite et que Mercure te préserve de la prison.
Voilà Myriam Kongost, Le vol et la morale, l'ordinaire d'un voleur chez Anacharsis. Et puis la revue du jour, Jacques, c'est la revue internationale et stratégique numéro 85, dossier. Ah, oh, quel beau dossier, l'argent des dictateurs.
Alors là, je peux vous dire qu'on change d'échelle. On n'est plus du tout dans même cour.
On n'est plus dans la pomme, là.
Ah oui, c'est en quelque sorte l'autre facette du printemps arabe. Et je peux vous dire que dans l'entourage des dictateurs, en ce moment, on solde à tout va pour se faire des liquidités, même la famille Assad. Alors, il y a un article de Jean Mercaert qui relève le fait que les peuples s'interrogent sur la légitimité d'une dette dont ils n'ont jamais tiré profit n'est pas une chose nouvelle. À propos du niveau, alors il détaille un petit peu donc ces fortunes accumulées en relation avec la dette des pays en question. La famille Ben Ali aurait accumulé entre 3 et 5 milliards de dollars, soit 15 à 20% de la dette extérieure tunisienne. Les Moubarak, entre 40 et 70 milliards de dollars, soit une à deux fois la dette extérieure égyptienne. Admirable. Et puis alors les avoirs de Kadhafi, bon, la dette libyenne, elle est négligeable, mais il monte à 200 milliards de dollars. Voilà. Alors,
c'est l'auto.
Dans cet article, j'attire l'attention des auditeurs sur cette partie. Les juristes, à un moment donné, lorsque, justement en 1917, après avoir annoncé qu'ils rembourseraient la dette tsariste, le parti bolchevique décide de la répudier en estimant qu'elle incombe au tsar à titre personnel et non à l'État russe, une série de juristes se sont attelés à la tâche de tenter de circonscrire justement les cas dans lesquels une dette peut être répudiée. Ils ont appelé ça la dette odieuse, l'émergence d'une doctrine. C'est à retrouver dans ce dernier numéro.
Voilà, la revue internationale et stratégique numéro 85, dossier L'argent des dictateurs chez Iris Édition Armand Collin. Toutes les références, bien sûr, sur franceculture.fr. À demain, Jacques Meunier.
À demain.